Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
Décidément, le monde va mal, c'est ce que semblent nous dire les planches de cette semaine. Bienvenue à la Conspiration des planches, l'émission critique des arts de la scène de Radio Campus sur 92.1 FM, Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. À mes côtés, Nicolas à la technique, et bonjour Nico.
Salut, salut.
Et Elisabeth, bonjour.
Bonjour.
Alors la demi-heure hein, pour épingler ce qui se passe sur nos scènes, et je vous le disais, le monde va mal, on va aller dans le désordre public au théâtre Le Public, justement, on ira voir des pièces, un coup double au théâtre Les Tanneurs, qui fait Nothing Hurt pour 50 spectateurs et deux voix. On parle des multinationales et on parle aussi de ce monde un peu nébuleux où on ne sait plus ce que c'est que d'être proche. On ira du côté de la mythologie grecque, parce que là aussi c'était pas mal, hein, au niveau des ordres, au niveau trash. Et Oedipe, hein, qui tue son père et qui couche avec sa mère, version danse, version Wim van de Keibus, ça s'appelle Bête Noir. On ira aussi du côté du one-man show, peut-être Walter, le belge ou le français, on ne sait plus. Là, je me retourne plutôt vers le désordre public, la révolution peut-être.
Ben, la révolution, c'est le fond qui manque le plus en ces temps difficiles, on dirait. Et malheureusement, c'est un peu ce qui manque dans ce spectacle aussi, qui a un titre accrocheur, désordre public, mais où l'énergie finalement est assez bien en sourdine. Et c'est vrai qu'avec un titre pareil, on attend quelque chose de l'ordre du Big Bang, du chaos, dont il apparaît quelque chose de neuf et tout ça. Et c'est pas tout à fait ça qui se passe, malheureusement, parce que c'est finalement un spectacle bien tranquille.
Ça raconte quoi?
Alors, c'est l'histoire d'un homme qui se rend compte qu'il est habité par les pensées des autres. Il entend les pensées des autres. Et puis, c'est une fable sur qui je suis, qui sont les autres, où est ma place. Enfin, c'est un texte sur l'identité. C'est un texte fragmentaire. La chute est intéressante. C'est un chapeau à l'auteur. C'est une Québécoise. Parce que, on ne s'y attend pas. On est parti sur une petite histoire de rupture. Comme ça, l'homme un peu perturbé parce que, sa blonde l'a quitté, comme on dit au Québec. Je vous ferai pas le coup de l'accent, mais voilà. Et puis, ça débouche sur un peu autre chose. Je vais pas vous le dire non plus, mais voilà.
C'est quoi? C'est un solo? C'est l'histoire d'un mec?
Non, c'est pas du tout un solo, puisqu'il y a énormément de petites scènes fragmentaires comme ça qui se passent dans les transports publics. Donc, on pourrait s'attendre évidemment à des ordres publics. Alors, ils sont six quand même, trois hommes, trois femmes. Et donc, on a ces petites scènes qui pourraient se passer effectivement dans un métro, que ce soit au Québec ou que ce soit ici à Bruxelles.
Mais ça pourrait être un film, alors, Elie?
Ça pourrait être un film, oui, ça pourrait être beaucoup de choses.
La trame de l'homme et sa copine larguée par sa copine?
Oui, on est vraiment dans quelque chose de fragmentaire. Je pense qu'il y a une cinquantaine de petites scénettes. Il y a des interruptions musicales aussi, donc on s'offre comme ça, let the sunshine in, des choses qui nous renvoient dans une autre sphère où on allait refaire le monde, mais voilà.
Et est-ce que le titre explique la pièce, désordre public?
Est-ce que le titre explique la pièce? Le lien que moi j'en ai vu, c'est justement dans ces transports en commun, dans ces transports publics. Le désordre, c'est ça qui m'a manqué dans ce spectacle, justement de cette énergie-là aussi. C'est vrai qu'il y a désordre dans la mesure où il y a beaucoup de personnages qui arrivent, mais là je pense aussi que c'est là qu'il y a un petit manquement dans la mesure où ça manque, à mon sens, et je crois que c'est quand même un sentiment que j'ai pu en parler à deux, trois personnes après, qui est un peu partagé, c'est que les personnages ne sont pas réellement incarnés véritablement, même si certains sont récurrents pour être assez truculents. Mais il y a beaucoup d'artifices pour les présenter, il y a beaucoup de perruques, beaucoup d'accents, des choses comme ça. Donc voilà, on reste un peu sur sa fin quand
c'est
même.
C'est une caricature du public dans le transport en commun, c'est des archétypes.
C'est des archétypes, c'est des personnages. Ben, il y a un jeune enfant génie, donc un jeune enfant à haut potentiel. Il y a une femme seule. Ben voilà, oui, ça devient un peu des archétypes peut-être d'une société qui se cherche. Il y a un petit côté qui se veut dénonciateur, mais encore une fois, ça manque peut-être encore un petit peu de virulence. On a ben, une petite parodie d'un soap. Enfin bon, voilà. Est-ce qu'on est dans le monde réel, dans le monde virtuel? C'est aussi les personnages sont comédiens, donc il y a encore une mise en abîme de ce côté-là. Voilà, c'est toute cette réflexion à travers l'identité et l'identité qui finalement se construit de génération en génération. Mais voilà.
Et ce désordre c'est, que tu n'as pas ressenti et qui t'a un peu manqué, c'est dû à la mise en scène ou au texte ?
Non, je pense que le texte a cette ambiguïté d'être un texte fragmentaire, mais finalement bien organisé, parce que effectivement, ça va vers cette conclusion qui est vraiment très intéressante.
Et qu'on n'aura pas.
Non, je peux bien vous parler. C'est plutôt l'idée que chacun de nous, on est la construction de ce qui nous a précédé, des siècles et des siècles qui nous a précédé.
La théorie des constellations.
Voilà, quelque chose comme ça. Mais bon, la manière dont c'est amené, on ne s'y attend pas. Donc ça, c'est sympa. Okay. Voilà, ça, c'est un peu ce...
Et derrière ce spectacle, il y a qui mis en mise en scène et en jeu ?
Alors, on a Olivier Cueillette qui, lui, incarne le personnage principal, donc le fameux Max qui entend ses voix et ses pensées et qui met aussi en scène, et puis autour de lui, des tout jeunes acteurs que... voilà, que je n'avais jamais vu, puisqu'ils sont tout jeunes, et c'est un petit peu peut-être ceci qui explique cela. On sent que ça manque vraiment de. Enfin, je l'ai vraiment ressenti comme ça, comme un manque d'incarnation, quoi. Vraiment des personnages qui doivent être là, mais plus dans le corps, plus dans l'énergie.
Et plus vif, quelque chose.
Peut-être aussi plus vif, oui, c'est vrai. Pour reprendre un peu ta question, c'est vrai qu'on est dans quelque chose qui est finalement très organisé. Mais avec un rythme, ben voilà, un rythme un peu tranquille en fait. Mais peut-être que ça découle aussi de l'interprétation d'Olivier Cueillette qui interprète ce personnage un petit peu perdu, mais sans grande urgence en fait. Et bon, c'est vrai qu'on peut comprendre l'inconfort que c'est d'être comme ça bombardé de pensées, mais ça a l'air très cool finalement.
Donc c'est un spectacle qui aurait mérité de nous rendre essoufflés. Vous voyez, il y a des spectacles qui sont
oui,
très
voilà,
vifs sur scène.
C'est ça.
Et
c'est vraiment ça qui m'a manqué en tout cas, c'est d'avoir cette urgence. Et c'est parce que si c'est une parodie ou si c'est une réflexion sur le monde moderne qui nous entoure, j'ai plutôt l'impression d'avoir été un dimanche à la campagne alors qu'on voulait me parler, me semble-t-il. Oui, voilà, de quelque chose de très urbain, de quelque chose qui part dans tous les sens.
Ouais. Et c'est fragile. Hein. Des fois, les spectacles jouent à peu de choses. Hein. Il suffit d'une option. D'une lenteur
oui,
ou d'un
non, bien sûr, parce que là, il y a effectivement le choix de montrer les codes, d'avoir les coulisses sur scène, etc. Donc, il se passe parfois des choses en même temps, mais bon.
Voilà. En tout cas, désordre public dans la petite salle des voûtes, mis en scène par Olivier Cueillette au public, jusqu'au
5 novembre. Donc, on a le temps si on veut.
www.public.be. Alors, plus désordre public, hein, personnage essoufflé. Là, on le retrouve vraiment, hein, Nicolas. On est parti voir Nothing Heard de Falk Richter dans ce petit spectacle curieux au Tanner à 19h, suivi de deux voix, un autre spectacle, une reprise. Mais parlons plutôt de Nothing Heard au Tanner.
Souvenez-vous, parce que je suis sûr que vous l'avez vécu, ces longues nuits chargées d'alcool et de drogue, de danse, de musique, le soleil commence à poindre et on se retrouve entre amis comme ça, errant. On ne sait pas très bien où on va, comment on va terminer la nuit.
Les paumés du soir.
Les paumés, ou même du matin, on va dire. Puisque ici, nous avons deux jeunes hommes et deux jeunes femmes qui apparemment ont vécu cette fameuse nuit un peu chargée, ravagée. Et ils se retrouvent dans un lieu non identifié, hein, et ils partent dans des divagations sur cette fin de soirée, les couples qui se forment, qui se déforment, qu'est-ce qu'on va faire, on va terminer ensemble, liés, pas liés, c'est pas grave, de toute façon, on s'aime, on est jeune, on a plein de choses à faire encore. Voilà, c'est cette jeunesse un peu désabusée qu'Armel Roussel a voulu montrer à travers cette combinaison de textes de Falk Richter, hein, puisqu'il y a deux textes, il y a un texte Nothing Hurts, donc qui est le texte en lui-même, et un monologue en plus qui a été pris de Dieu est un DJ qu'on a déjà pu voir sur scène au National notamment. Alors, donc cette jeunesse désabusée, c'est quelque chose qui touche Falk Richter. Il en a beaucoup parlé dans ses spectacles. Et Armel Roussel a choisi ici une mise en scène assez sobre. Falk Richter aime beaucoup la vidéo. Il n'y en a pas ici. C'est tout sur le texte et sur l'attitude des personnages. Beaucoup dans le mouvement également, le mouvement lent, vaporeux, comme ça. Et on est souvent face à face, puisque de ces personnages qui sont face au public, parce qu'on remarque bien que leur relation, elle est bizarre, elle est quasi inexistante même. Ils sont tous foutus, on va dire. Il faut une bonne journée de sommeil pour se remettre, à mon avis, de ça. Et ça pose quoi comme question? Peut-être ça, justement, cette inexistence de la jeunesse comme ça, qui vit entre deux mondes, celle où elle était encore protégée et celle où elle se jette dans le vide de la vie, tout simplement, de la vie d'adulte. Et c'est cette vapeur un petit peu existentielle qui est retranscrite ici. Dans un spectacle qui dure 1h20, quelque chose comme ça. Oui, un peu plus à mon avis, qui est très très bien interprété, avec un point spécial pour les deux jeunes comédiennes qui interprètent, puisque elles ont des rôles primordiaux, c'est elles qui sont les plus présentes, que ce soit dans leur mouvement et dans leur présence, que dans le texte également. Pas que les deux jeunes hommes ne jouent pas bien évidemment, mais ça les amène à dire moins de choses. Et ce qu'il y a, c'est qu'on est dans quelque chose qui n'est pas du tout linéaire. On peut pas dire ça. Il n'y a pas un début, il n'y a pas une fin. On est dans une succession de textes. Il n'y a pas d'évolution parce qu'on, dès le départ, ils sont déjà bien atteints et ils le seront toujours à la fin. Alors évidemment, tout est dans le texte également, surtout ce monologue de Dieu est un DJ qui est dans le désabusé, qui parle de cette jeunesse perdue finalement.
Est-ce que le collage fonctionne des deux? Parce que tu parlais de deux textes, est-ce que
c'est... C'est parce qu'on ne le sent pas. Moi, c'est parce que je l'ai lu dans le dossier de presse et on voit que les deux textes se renvoient quelque chose, notamment grâce à cette construction qui n'est pas, on va dire, traditionnelle, linéaire également, puisqu'on est parfois dans la chanson, on est parfois dans comme un slam aussi, on l'a vu, Dieu est un DJ, c'est comme un slam. Et puis le dialogue qui n'a ni queue ni tête quand on est saoul, quelqu'un qui pose une question, l'autre qui répond à l'envers.
C'est surtout des crises en plein milieu de la nuit.
C'est une sorte d'une descente.
On est dans une descente, on peut dire qu'ils sont
Mais
tous.
Mais dès le début, on est déjà descendu.
Ils sont tous dans leur trip, on peut dire, on peut mettre une heure pâle là-dessus. Ouais. Et chacun est dans sa crise. Et plus que par le désarroi de cette jeunesse, c'est le désarroi face à un monde qui est virtuel, pas virtuel. On ne sait plus bien les frontières, on ne sait plus ce qu'on a envie. On est dans une liberté totale où on ne sait finalement plus la valeur des sentiments. Il y a comme ça quelques joute très forte où deux personnages se disent « Est-ce qu'on est proche ?» Et la fille lui dit « Mais oui, on est proche. » Et ça dure pendant un quart d'heure parce qu'ils ne se comprennent pas. Elle lui dit « Mais tu me poses cette question, mais c'est complètement abstrait. » Alors
la question des relations entre les gens, c'est ça qui est...
Le « je t'aime » devient abstrait pour les gens, donc on ne sait plus. Donc ils sont vraiment tous en shoot. Et alors Roussel en a fait, lui-même le dit, voilà, il se shoot à la fiction. Et c'est pour ça que tous ces bouts de texte viennent, parce que ce sont des gens qui essayent de ressentir les choses et ils s'inventent des accidents. Et c'est très fort. On voit, elle imagine des bustes en feu. Et dans Falk Richter, il y a justement ce film. Et l'importance de ces accidents et de ces crashs, ça donne, parce qu'il n'y a pas de... C'est des images mentales qui sont très fortes à un moment donné quand il explique que voilà, si on imagine un film et qu'on défonçait ta mère et dans le désert, il part dans le désert dans un trip. Je crois que c'est un de ses potes est mort. Il part avec des extas, une bouteille d'eau et il raconte son périple dans la mer avec une musique électro qui est en continu dans le spectacle et qui donne une atmosphère et un état mental. Comme
et avec les comédiens qui jouent avec cette musique, puisque c'est eux qui actionnent tout ça. Alors, ce qui est important, c'est que cette mise en scène, je disais qu'au départ, elle était prévue pour un immeuble désaffecté. Ça a été monté là-dedans. Et on le sent très bien ici aussi, dans cette mise en scène nue, enfin, dans cette scénographie nue. Il n'y a aucun décor. On est dans cette petite salle des tanneurs assez brute, comme ça. Et ça montre bien cette ambiance de monde en faillite.
Mais c'est fort connaître, Falk critère. Ah, maintenant, je ne sais pas ce que le temps donnera à son écriture, mais il pointe vraiment bien un état d'esprit. Ouais. De...
Qu'on retrouve d'ailleurs un petit peu dans des ordres publics d'Evelyne de la Chelinière. Mm-hmm. C'est un petit peu aussi ce frottement avec le monde, est-ce qu'il est réel, est-ce qu'il est virtuel, est-ce qu'on a des amis sur Facebook ou des amis dans la vie.
Tôt ou tard, toute cette réalité devait venir au théâtre, cette atmosphère.
Est-ce qu'on sort bien de ce spectacle ou est-ce que c'est...
Ben Nicolas, moi je sors bien du spectacle. C'est un très beau petit poème d'une heure et quart, moi, je dirais.
Oui, Jeanne, personnellement, je trouvais qu'il y avait quand même un petit peu de longueur par moment. C'est personnel, ça, c'est parfois j'aurais aimé qu'on passe à autre chose. Mais en effet, on ne se sent pas mal, on ne se sent pas si sale que ça. Parce qu'on n'est pas dans cet état-là, finalement. Mais peut-être qu'on peut aller le voir un peu déjà avancé. Il faudrait qu'il le joue à 2h du matin, ce spectacle.
Et puis, il y a une amertume. Le dernier personnage termine comme elle l'avait fait au début. Elle n'en peut plus. Elle veut des corps qui lui cognent dessus. Donc, elle veut vraiment... Là, il est 4h du matin. Il lui faut un corps. Il s'invente des histoires pour finalement vivre. Ouais. Et c'est ça qui ont l'impression d'avoir perdu. Parce qu'on ne sait pas. Mais ils ont envie des corps qui les cognent.
Le virtuel, on ne touche plus. Non, et là, on a envie de contact, évidemment. Ouais. C'est ça, quelque chose de beaucoup plus charmant.
Mais donc, on peut repartir avec ça, en fait.
Tout à fait.
Oui, cette envie-là. On va chercher un corps la nuit. Voilà. Nothing Heard de Falk Richter pour 50 personnes. Attention, donc, les places se vendent comme des petits pains.
Oui, c'est à voir jusqu'au 24 septembre et ça part très, très vite. 02 512 17 84 au théâtre Les Tanneurs, www.letanneurs.be.
Voilà, pause musicale et on revient au deuxième spectacle des Tanneurs.
La conspiration.
Retour à la conspiration des planches. On vous le disait, le monde va mal, désordre public, nothing hurt. On va ici voir deux voix, le deuxième spectacle qui suit Nothing Hurt au Tanneur. C'est un tube créé en 1997. Et là, on mélange, curieux mélange, les écrits corsaires de Pasolini à un patron, à un ancien patron de Shell. Pour un solo, Nicolas, que tu as vu.
Un solo de Jeroen Willems, qui tourne donc depuis pas mal d'années avec ce spectacle. Performance de comédien et performance dans le thème également, qui est toujours d'actualité. Hein. On voit bien dans cette société. Ça nous emmène en Italie, on le sent bien. On sait la situation italienne en ce moment, au niveau politique, au niveau économique, c'est assez compliqué. Et à croire que bien ça se tramait depuis longtemps avec ce dîner où on est invité. Un dîner d'hommes importants au point de vue économique, politique, intellectuel également, qui se retrouvent à un dîner et qui donnent un peu leur point de vue sur cette société et leur point de vue qui ne fait pas forcément plaisir, bien évidemment. Et Jeroen Willems interprète tour à tour tous ces personnages en faisant une transition de transformiste formidable avec très peu de moyens. Il garde toujours le même costume sur lui à peu de choses près. On n'en dira pas plus parce que ça, c'est une des surprises. Et il commence avec cet intellectuel qui parle un peu sur l'Italie. Un intellectuel qu'on sent incompris. Hein. Il est au milieu de ces autres personnages. Et il discute. On a l'impression qu'il discute face à un mur. Ce qui est renforcé par la solitude de Jeroen Willems à cette table, évidemment. Et qu'est-ce qui se passe en Italie? Eh bien, on sent que la politique est corrompue. Corrompue par quoi? Par la mafia. Mais la mafia est tenue aussi par les milieux économiques. Bref, il y a toute cette imbrication d'intérêts qui s'enchaîne dans un texte volubile à l'italienne. D'ailleurs, chapeau à la traduction parce que on a l'impression qu'on assiste à un spectacle en italien. bon, il y a un ou deux mots italiens qui nous parviennent comme ça, mais le débit, le placement des mots dans les phrases, le choix des mots est typiquement italien. Ça, je crois que Nurten, tu l'as remarqué également dans ce spectacle que tu avais déjà vu, je crois.
L'avais vu, c'est un tube. Il y a des spectacles comme ça qui traversent le temps. Donc ça a été créé en 1997 et ça revient ici. Et ça marche, comme tu dis, le texte n'est pas daté. Bon, c'est Pasolini, l'intro, c'est Pasolini qui d'emblée, on nous donne... C'est un texte de haut niveau qui a su garder une chair théâtrale. Mm-hmm. Parce que d'emblée, on nous fait toute une réflexion sur... Ben, il y a des gens qui naissent en ne pensant à rien, et tout le long de leur vie, ils ne se tracasseront pas. Et il y a d'autres qui, dès le début, se poseront toujours des questions sur le monde.
Et ça rappelle encore une fois que la religion est importante dans la société italienne, bien évidemment, parce que croire, évidemment, on pense à la religion, et on a l'impression que ça secoue tout le monde à ce moment. Cette question se pose, on a l'impression que tout le monde veut s'en défaire, même Pasolini, à mon avis, veut s'en défaire, mais n'y arrive pas, puisqu'il l'évoque dans chacun de ses spectacles qu'on a pu voir On pensait à Fabulazione qu'on a vu au Rideau également.
Et c'est surtout, il y a tout le temps la question de la société et du pouvoir, hein, avec cet homme d'affaires qui explique d'un cynisme tout à fait démago le système des multinationales.
Il y a une violence, il y a une cruauté dans les mots et dans dans les idées qui sont exprimées, qui sont bien plus fortes qu'un coup de poing, et ou même qu'un verre qu'on jette au visage. Hein, ça, ceux qui verront le spectacle me comprendront à ce niveau-là. Aussi, cette confrontation des sexes, hein, puisqu'il y a une femme, et on se rend très vite compte que son rôle est dérisoire, dans le sens où elle veut se donner ce rôle dérisoire pour réussir. Et c'est là encore toute, je dirais même, toute l'astuce du système berlusconien qui en est à son apogée aujourd'hui et dans son début de descente actuellement en Italie.
Mais ce qui est intéressant, c'est d'abord comment une pièce peut prendre un texte ou économique ou philosophique ou intellectuel de haut niveau avec des concepts hein, comme les néants, cosmogonie, multinationales, tout ça, et lui donner une chair théâtrale. Comme quoi un texte ne doit pas être juste que des répliques et que des mots simples. On peut avoir quelque chose de haut niveau, une pensée, comme un écrit, comme si on lisait un article politique hein, ou économique, qui peut donner une chair théâtrale à juste un homme qui change de chaise et qui change de personnage et qui a grandi à lui seul tout un débat qui datait d'avant le 11 septembre et qui vient jusqu'à aujourd'hui. Certains font évidemment les références à Berlusconi, mais on peut voir plus largement le système de la mondialisation.
Tout à fait, puisque le système s'inscrit pleinement là-dedans. Donc évidemment, on élargit et on n'est pas obligé de connaître les tenants et aboutissants de la politique italienne pour savoir ça. C'est un texte qui est corsé et qui est riche également. Donc parfois, il se peut que notre esprit part un petit peu ailleurs, mais on rattrape très vite.
Bien sûr.
Dès qu'il change de personnage ou même avant, enfin bref, voilà, il arrive à capter cette attention puisque Jeroen Willems c'est un grand comédien et on peut le voir encore cette fois jusqu'au 24 septembre également au théâtre Les Tanneurs. Je redonne le numéro de téléphone 02 512 17 84 et c'est à 20h30 juste après Notting Hill.
Et ce qui est drôle, c'est de voir comment des discours, parce que c'est un vrai discours d'un ex-patron de Shell, peuvent devenir spectacle. Donc ça aussi c'est un peu un petit piment. Donc voilà le beau duo de l'ouverture du théâtre Les Tanneurs. Alors je vous le disais, un désordre du monde, le monde va mal, mais ça date pas d'aujourd'hui parce que moi je vous emmène voir Bête Noire. Bête Noire, c'est Oedipe dans une version ultra compacte de Jan de Cort que met en scène Wim van de Caybus, le chorégraphe Wim van de Caybus. Il joue lui-même Oedipe et moi ça faisait des années que je ne l'avais plus vu sur scène et quel charisme. Alors sur scène, il a toute sa compagnie. Il y a une quinzaine de danseurs, comédiens, musiciens qui vont dérouler cette histoire d'Oedipe ultra connue, hein, donc qui veut échapper à son destin, que l'oracle lui avait prédit qu'il allait tuer son père et coucher avec sa mère. Lui, il espère échapper et finalement, il tombe dans le panneau à chaque fois. Ce qui se passe, c'est que sur scène, la version compacte de Jan de Cort reprend juste quelques lignes, quelques trames et la mise en scène de Van de Caybus a l'idée de génie de faire un flashback en arrière. Donc on arrivera à la fin du spectacle à l'abandon d'Oedipe. Et là, il y a un vrai bébé sur scène parce que le roi et la reine avaient entendu qu'ils allaient mettre un fils au monde qui allait les tuer et l'épouser. Pour effacer ça, ils ont abandonné Oedipe. Oedipe a été récupéré par des gens, il est devenu fils d'un autre roi. À ce moment-là, on lui dit son destin, lui il flippe, il sort et en se cassant, en errant dans la vie, il rencontre son vrai père qu'il tue, sachant que c'était pas son père.
Mais dans cette histoire, on met toujours l'accent sur Oedipe, mais c'est sur les parents qui veulent échapper à leur destin, évidemment, hein, puisque c'est eux qui éloignent leur fils qui, de retour au pays, évidemment, n'échappe pas à son destin.
N'échappe pas. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est la danse, donc tout est mis, par exemple, Laos, le père d'Oedipe, est là par un danseur. Donc tous les danseurs, moi ce qui m'a le plus impressionné, bon, pas Oedipe, parce que c'est vraiment, l'histoire est tellement périphérique, tant l'énergie de Van de Caybus, il est connu pour ça, pour des confrontations de duo et de trio comme ça sur scène. C'est vraiment Van de Caybus, comme on le connaissait de ses anciens spectacles, ce sont des confrontations. Ce qui est terrible, par exemple, la scène de la peste à Thèbes est faite par toute une chorégraphie vaste comme ça, où des gens se figent un peu à la Pompéi, mais c'est incroyable comment ils sont figés, comment d'autres danseurs essayent de les retirer. Ce sont des poses comme ça, comme un tableau de Pompéi, assez impressionnant. Les confrontations se font en trio ou en duo très très fort. Et alors il y a ce côté un peu enfantin que Oedipe joue avec ses enfants, tu vois, comme si de rien n'était, voilà. Et on lui dit, bon... pour arrêter la peste, il faut à un moment donné trouver le meurtrier de son père. Et lui se charge de trouver le meurtrier de son père. Et en fait, c'est lui-même. Et là, le drame vient. Et donc, on voit ainsi en scène en arrière. Et on se retrouve vraiment à la fin, ce bébé qui en a choqué plus d'un parce qu'il était 22h, mettre un bébé sur scène en train de brailler.
Mais il avait faim, sans doute. Hein.
Voilà. Mais écoute,
est-ce qu'il y a un jeu sur la vidéo parce que Van de Kébus a fait cinéaste l'année dernière?
Oui, oui, ici, il est tout simple. C'est juste un circulaire, un cercle de chiffon où les danseurs vont aller s'incruster, se désincruster, une espèce de smiley comme ça. Et puis, être trois musiciens un peu country, un peu harmonica et tout, qui sont sur scène et qui jouent. Hein. Donc, chacun un personnage. Il y a aussi des comédiens qui vont et viennent. Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est la danse de Wim Van de Kébus. Franchement, Oedipe, c'est périphérique. De temps en temps, il nous le rappelle parce que de temps en temps, le texte revient. Mais c'est, là n'est pas le plus intéressant. Ce qui est intéressant, c'est toujours cette confrontation et ce travail collectif des danseurs dans Van de Kébus. Donc, c'est Bête Noire, à voir jusque, j'oserais le dire, je n'ai pas les dates, Nico.
Jusqu'au 1er octobre,
jusqu'au
au KVS,
octobre.
Ce sera en tournée en Flandre et aux Pays-Bas juste après. Je vous renvoie vers le site www.kvs.be pour toutes les dates, toutes les informations sur notre site dans le courant de la journée.
Allez, il nous reste 2-3 minutes. Nicolas, tu es parti voir pour nous un one-man show après ces désordres du monde.
Très vite, le TTO qui a choisi d'ouvrir sa saison avec deux one-man shows, et notamment celui de Walter qui tourne depuis pas mal de mois. Il a commencé en Belgique. C'est un ancien ULBiste, il a fait Solvay, il a choisi de faire toute autre chose parce qu'il faisait plus rire ses copains que ses profs. Et donc, mais il a terminé ses études et il nous parle, comment il se définit, un gentleman déguisé en salaud au milieu de salauds déguisés en gentleman. C'est ainsi qu'il s'est défini quand il est sorti de cette école de commerce bien connue. Et il nous parle un peu de ce personnage de macho, de relation avec les filles, qui aiment le luxe et qui ne et qui survole un peu cette société. Il se raconte, c'est du vrai stand-up, c'est bien mis en scène, c'est superbement interprété, il a de la tchatch, il a du répondant, il a des blagues parfois un peu lourdes, mais tout le monde éclate de rire de toute façon, parce qu'on a besoin aussi de ces bulles d'air qui ont envie de se lâcher. C'est à voir donc au Théâtre de la Toison d'Or jusqu'au 1er octobre. Là aussi, les places partent très vite, et le spectacle qui suivra, ce sera un autre étudiant en communication de l'ULB qui a pris aussi les planches, Alex Vizorek. On essaiera peut-être d'aller le voir aussi.
Donc voilà, alors tout à fait autre chose. Moi, je dirais qu'au Beaux-Arts, ce week-end, il y a Médée. Hein, on est encore dans la tragédie grecque. Elle se fait trahir par son mec et elle tue ses gosses. Alors Médée, c'est Carlota Ikeda. On est dans le Buteau, la danse des ténèbres. Carlota Ikeda, pour ceux qui ont connu, c'est une chorégraphe de la compagnie Ariadon qu'on voyait souvent au 140, un peu rock'n'roll, un peu avec guitare électrique et la danse Buteau. Ici, elle revient, la dame a au moins 80 ans. Elle revient dans une danse sur un texte de Pascal Quignard. Qui a fait Tous les matins du monde. Voilà, c'est Médée, une version dansée et mise en mots, Carlota Ikeda, Pascal Quignard, au Beaux-Arts, ce vendredi et ce samedi. Il y a même une rencontre littéraire avec l'auteur. Ça, c'était pour Médée. Ainsi se termine Radio Campus, la conspiration des planches.
Oui, ça s'appelle toujours comme ça.
Mes mots. Voici Bonne Planche à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. N'ayez pas peur à franchir les portes du théâtre.
C'est la rentrée,
on le sent. Ce n'est pas la fin du monde, mais c'est des bonnes planches.
www.radiocampusbruxelles.org pour tous les renseignements sur les spectacles dont on a parlé aujourd'hui. Et aussi réécouter cette émission sur www.demandezleprogramme.be. Belle soirée ou belle journée à tous.
La constellation. constelación.